Il est 22h, merci d'avoir choisi Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. La course contre la montre pour la loi Gilets jaunes. Le vote par les députés devait être une formalité, mais les débats visiblement s'éternisent. Des Gilets jaunes qui hésitent à chausser les skis samedi. En tout cas, ils menacent de s'inviter à proximité des stations de sport d'hiver. Il est le premier frondeur de La République En Marche, le député Sébastien Nadeau, écarté du groupe ce soir à l'Assemblée pour avoir voté contre le projet de budget. Jean-Claude Gaudin, toujours sur la sellette après l'effondrement de deux immeubles à Marseille, conseil municipal houleux ce matin. Une amende colossale en vue pour Airbus, visée par une enquête aux États-Unis. Le titre chute en bourse. Les gaz hilarants, nouvelle drogue à la mode, semble-t-il, chez les jeunes, et ça ne fait pas du tout rire les addictologues. Côté météo, attendez-vous un vendredi pluvieux et venteux, mais d'une douceur exceptionnelle sur l'ensemble du pays. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal, et puis votre rendez-vous comme tous les soirs à 22h20 avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir le président de Citeo, Jean Ornain, Citeo, qui œuvre pour réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Et il va y en avoir beaucoup d'emballages et de papiers à Noël.
Europe 1.
Les députés vont donc encore se coucher très tard ce soir. Le projet de loi issu des annonces d'Emmanuel Macron face à la colère des Gilets jaunes est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Un examen qui devait être une formalité, sans surprise au niveau du résultat, puisqu'une partie de l'opposition a même prévu de voter pour ou de s'abstenir. Sauf que certains ont décidé de faire durer les débats, Adrien Beck.
Oui, en tout, un peu plus de 200 amendements à examiner, des députés qui n'ont pas forcément envie de s'éterniser, et des mesures assez consensuelles, ce qui a laissé espérer au rapporteur du texte, le député En Marche Olivier Véran, au début de la séance, un moment un peu en dehors des joutes politiques.
Mettre de côté ces différences, le temps d'une concorde nationale pour aller adopter des mesures que les Français attendent, et ils sont très nombreux à les attendre, je trouve que c'est un beau message que nous envoyons à nos concitoyens.
Espoir bien vite douché, la gauche donne de la voix depuis le début d'après-midi. Jean-Luc Mélenchon critique un gouvernement gribouille qui improvise. Quant au communiste Pierre Dharréville, il juge les mesures insuffisantes et le gouvernement hors sujet.
Vous appliquez la règle des 3 E, en brouille, en tourloupe, en berlificotage. Ce projet de loi précipité est donc un trompe-l'œil. Autrement dit, c'est un leurre et nous ne sommes pas des calamars.
Voilà l'opposition qui s'offre une tribune, palabres inutiles, s'agace un député de la majorité. On n'a pas fini avant minuit, dit-il. En tout cas, tout doit être bouclé ce soir avant un passage du texte demain au Sénat.
Adrien Beck à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Vous avez raison, Emmanuel Macron s'adresse directement aux signataires de la pétition sur les carburants lancée sur la plateforme en ligne change.org par Priscilla Ludowski, qui est devenue depuis l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Votre message, je l'ai entendu, assure le chef de l'État, qui détaille ensuite l'ensemble des mesures fiscales et les différents gestes d'apaisement qui ont été annoncés par l'exécutif ces dernières semaines. Emmanuel Macron qui propose même à Priscilla Ludowski d'échanger directement avec elle par mail. Édouard Philippe, lui, se rendra demain en Haute-Vienne pour rencontrer notamment des maires et des gilets jaunes afin de préparer le fameux grand débat. Et justement, elle est Madame Grand Débat National et elle était l'invitée d'Europe 1 ce soir. Chantal Jouanneau précise les modalités de cette consultation citoyenne annoncée par le président. Tout est prêt, dit-elle. L'ancienne ministre et sénatrice estime avoir obtenu les garanties nécessaires. Il n'y aura pas de mainmise de l'exécutif et donc une liberté totale des intervenants. Alors en attendant ce débat et malgré les mesures annoncées, les Gilets jaunes préparent l'acte 6 pour samedi, avec des actions un peu différentes, semble-t-il, des samedis précédents. On parle de perturbations, notamment du côté des stations de sport d'hiver, avec un comité d'accueil au péage pour les vacanciers qui ont choisi la montagne, Rémi-Pierre.
Oui, et notamment ici à celui de Sionzier, c'est le péage qui permet d'accéder à Morzine ou encore à Voria. Le groupe baptisé les Indestructibles Gaulois a bien été obligé d'évacuer le rond-point qu'ils occupaient il y a 48 heures, mais il s'est installé juste en face sur un terrain privé. Et du coup, Christelle, Marion et les autres seront bien là samedi pour l'arrivée des skieurs.
Je pense que si d'ici là on a des papillotes, pourquoi pas une petite papillote en même temps qu'un tract et la signature de notre pétition pour le RIC. Là, je pense qu'il y aura beaucoup d'enfants, donc on va prévoir des papillotes pour les petits-enfants.
Voilà. Une barrière levée au péage ?
Mais c'est prévu.
C'est prévu.
C'est prévu, comme on fait depuis un mois. On lève au maximum les barrières quand on le peut.
Un comité d'accueil Gilets jaunes des vacanciers qui sera également présent au péage de Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie, avec, explique Jacques, un objectif très précis.
C'est les arrivées des vacanciers, donc leur faire du péage ouvert, ça leur donne un pouvoir d'achat et voilà quoi.
Ils nous donnent 100 euros d'augmentation sur le SMIC, mais nous, en 10 passages, on a fait. Les 100 euros sont passés.
Les gilets jaunes qui seront également là au péage de Sainte-Hélène, près d'Albertville, et certainement aussi à Grenoble. Ils assurent qu'ils ne bloqueront pas la circulation, mais ça ne devrait pas arranger les habituels bouchons sur la route des stations.
Effectivement, reportage du correspondant d'Europe 1, Rémi Pierre. Notez que le château de Versailles et l'ensemble d'ailleurs du domaine resteront fermés après-demain, samedi, par mesure de précaution en vue d'une éventuelle manifestation, décision préconisée par la préfecture. Le député de Haute-Garonne, Sébastien Nadeau, écarté ce soir du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale après avoir voté contre le projet de budget 2019. Il s'agit de la première exclusion d'un marcheur décidée à l'unanimité par le bureau du groupe. Sur Europe 1, Sébastien Nadeau dit n'avoir aucun regret, mais il estime ne pas avoir été assez écouté.
Ma démarche, elle est constructive, elle n'est pas en opposition, elle n'est pas en train de montrer du doigt que La République En Marche ne fait pas son travail, mais en revanche, on a un parlementarisme en France qui est très faible, et le projet du gouvernement n'a pas été suffisamment amendé pour être adapté à la situation. Je pense que ça fait quand même des semaines et des semaines que les parlementaires de tous bords essaient de faire remonter les problèmes du terrain, mais on n'a pas été suffisamment écoutés.
L'ex-marcheur Sébastien Nadeau, ce soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Merci d'écouter Europe 1, il est 22h06, c'est la suite de votre journal de la nuit et une mairie protégée par les CRS ce matin. Conseil municipal sous tension à Marseille, le premier depuis l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville début novembre. Depuis ce drame qui a fait 8 morts, Jean-Claude Gaudin est très critiqué pour sa politique de logement. Beaucoup réclament sa tête, le maire de Marseille qui a une nouvelle fois fait part ce matin de son émotion.
J'ai entendu les douleurs, les colères et les critiques et j'ai fait face dans la tempête. Avec la charge considérable du capitaine qui doit remplir sa mission, et je continuerai à le faire. La question posée est donc de faire désormais plus, mieux et plus vite. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce drame ne se reproduise jamais. Les 8 victimes du 5 novembre me hanteront toujours. Aussi, je compte sur vous pour m'aider à répondre aux défis que nous lance leur mémoire. C'est l'hommage que leur doit la ville de Marseille.
Le maire de Marseille ce matin, Jean-Claude Gaudin, qui a donc annoncé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour ce drame. Les habitants ne sont pas morts de la pluie, se sont insurgés les socialistes. Écoutez la réaction de l'élu des quartiers nord, Samia Ghali.
Il va vous dire oui, je suis triste et j'ai de la peine. Et c'est vrai, je ne remets pas en question l'émotion, la peine. Je le crois de ce point de vue-là. Mais la politique, on reprend trop vite le dessus. Et là, il ne fallait pas faire de politique. Il fallait dire comment on travaille, qu'est-ce qu'on apporte, quelles sont les réflexions. On va mettre en œuvre ça et ça et ça. Sauf que tout ça, ça n'a pas existé ce matin. Pour en arriver à dire que c'est une catastrophe naturelle, que c'est la faute du ciel, où on vit. Je crois qu'il est, il est déconnecté, mais je dirais que son équipe est déconnectée avec lui. Sauf que malgré tout, un responsable, il a des fois aussi des complices. Et que son conseil municipal, sa majorité municipale, eh bien, ce sont ses complices.
Samia Ghali au micro de la correspondante d'Europe 1 Marseille, Nathalie Chevance. La perpétuité requise contre Francis Holm dans le procès en appel pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz il y a 32 ans. Le verdict est attendu demain. Carlos Ghosn, lui, pourrait bientôt sortir de prison, peut-être même dans les prochaines heures, un mois après son arrestation au Japon. Le tribunal de Tokyo a en effet rejeté aujourd'hui la requête du parquet d'étendre sa garde à vue. Airbus, visé par une enquête américaine. Ce sont des révélations du journal Le Monde et ça concerne des irrégularités sur des transactions. Selon Le Monde, Airbus pourrait payer une amende colossale. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, alors les faits sont déjà connus, c'est Airbus lui-même qui les avait révélés. Des intermédiaires et des commissions non déclarées lors de négociations de certains gros contrats, notamment en Asie. Pour ça, Airbus est déjà sous le coup d'une enquête en France et en Grande-Bretagne. Désormais, ce sont donc les Américains qui s'y mettent aussi. Le groupe aéronautique dit coopérer et ne commente pas, je cite, une procédure en cours. Alors c'est très inquiétant pour Airbus parce que le ministère de la Justice américain ici n'est pas tendre avec les entreprises étrangères qui sont dans son collimateur. Total ou la Société Générale en ont déjà fait les frais avec à la clé des amendes faramineuses. Là, Airbus pourrait se retrouver à payer plusieurs milliards de dollars et ce serait un moindre mal, explique Le Monde, parce que si la justice américaine préfère condamner Airbus au pénal, eh bien ça veut dire exclusion des marchés publics internationaux pendant 5 ans. Ce serait catastrophique pour le groupe européen qui est déjà à la traîne cette année en termes de commandes d'avions par rapport à son concurrent américain, Boeing. Et d'ailleurs, l'action Airbus a plongé aujourd'hui à la Bourse de Paris suite à ces révélations.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Nouvelle étape dans la bataille judiciaire entre Apple et Qualcomm. Le fabricant de semi-conducteurs américains accuse la marque à la pomme de violation de brevet. Et aujourd'hui, un tribunal allemand a donné raison à Qualcomm, ouvrant la voie à une interdiction des ventes des derniers modèles d'iPhone outre-Rhin. Il est 22h10, c'est la suite de votre journal sur Europe 1 et l'Observatoire des drogues et des toxicomanies alerte sur une pratique de plus en plus courante, semble-t-il, la consommation de gaz hilarant, en particulier chez les jeunes et en particulier lors des soirées étudiantes. Il est très bon marché, un gaz hilarant qui inquiète beaucoup les professionnels de santé, à l'image du docteur Amin Benyamina qui était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée.
La prise de ce gars hilarant qui est très à la mode chez les jeunes étudiants, et là, pour le coup, j'envoie un cri d'alarme au ministre concerné, c'est-à-dire Mme Agnès Buzyn et Mme Frédéric Vidal, pour réellement attirer l'attention auprès des universités, parce que c'est un produit qui circule beaucoup dans les facs, notamment des facs de médecine et de pharmacie. C'est vraiment une population ciblée. Et on voit bien que la prise chronique va avoir les mêmes effets que l'alcool. Ça va venir perturber un système biologique, notamment de une certaine vitamine, et on va avoir des atteintes au niveau de la cellule neurologique. C'est gravissime, c'est un produit qui n'est pas fait pour ça, et on a le sentiment qu'il y a une vraie banalisation de ce mésusage d'un produit qui, évidemment, est un produit utilisé en médecine.
La mise en garde du docteur Amin Benyamina, psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée. J-5 avant Noël et ce constat inquiétant alors que nous sommes de plus en plus nombreux à commander nos cadeaux sur Internet. 4 produits sur 10 fabriqués hors d'Europe et vendus en ligne sont dangereux. C'est ce qui ressort d'une très sérieuse enquête de la direction de la concurrence. Enquête commandée par Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique.
J'ai demandé de faire un test et c'est ça l'enquête qui a été publiée ce matin sur des guirlandes de Noël et sur des peluches, il y avait 75% d'entre elles qui respectaient pas les règles en général et puis 40% qui étaient vraiment dangereuses. Pour protéger les Français, nous-mêmes, on a adapté nos contrôles. Aujourd'hui, la DGCCRF et les douanes, elles ont transformé leur façon de travailler pour être capables de mieux contrôler ces millions de paquets. Parce que ce n'est pas la même chose de contrôler un énorme conteneur avec 100 000 références que de contrôler 100 000 paquets avec une référence. Donc ça, nous-mêmes, on se transforme pour mieux contrôler.
Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, invité du grand journal de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. Vos valises sont-elles prêtes à la veille des vacances? C'est le grand rush qui s'annonce à la SNCF. 8 millions de voyageurs attendus dans les gares pendant les fêtes. Près de 16 000 trains prévus entre demain et le 6 janvier. Et beaucoup de monde aussi évidemment sur les routes. Et puis un mot de rugby pour vous dire que la Fédération et la Ligue proposent d'abaisser la ligne de plaquage au niveau de la ceinture. Cette annonce, elle a été faite tout à l'heure par Bernard Laporte, 8 jours après un nouveau décès d'un jeune joueur français, Nicolas Chauvin. Les deux institutions souhaitent également interdire le plaquage à 2 joueurs et pénaliser plus durement celui tête contre tête. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Demain, Elena, demain vendredi, sera une journée bien pluvieuse. Hein.
C'est une belle perturbation bien active qui donnera des pluies soutenues et de bons coups de vent demain sur l'ensemble du pays. Vent jusqu'à 80 km/h dans les terres. Seules les régions allant des Pyrénées aux Alpes et bassins méditerranéens seront sous un ciel clair demain matin. Et c'est vrai que ça va se couvrir l'après-midi sur la vallée du Rhône et les Alpes du Sud. Une perturbation qui véhicule de l'air chaud. Résultat, vous n'aurez pas de neige en montagne sur les Alpes du Nord ni sur le Massif central. Le Jura et les Vosges, mais de la pluie, sauf si vous grimpez au-delà de 2000 mètres. Voici quelques températures prévues pour demain après-midi. 7 degrés à Albertville, toujours bien au-dessus des normales de saison. 9 à Lyon, 12 à Nancy et Cahors, 13 à Toulouse, 14 à Lille, à Caen, Brest et Blois. 15 degrés pour Nantes, Paris et Bordeaux, 16 à Marseille et 17 pour Biarritz, voire des pointes à 18, 20 degrés près des Pyrénées.
La météo très douce, signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil, Emmanuel reçoit ce soir le président de Citeo, Jean Ornain. Citeo qui œuvre pour réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h14 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, comme tous les soirs, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et les marchés qui ont toujours du mal à digérer les annonces de la Fed.
Oui, c'est une nouvelle séance de déprime à Wall Street. Le Dow Jones cède 1,99%, 22 860 points, moins 1,63% pour le Nasdaq, 6 528 points. Les marchés ont décidément du mal à encaisser le ton moins accommodant que prévu de la Fed hier. La Banque centrale veut donc poursuivre ses hausses de taux malgré les inquiétudes pour l'économie et malgré aussi les fortes critiques de Donald Trump. Le président américain menace d'ailleurs ce soir de bloquer l'administration du pays s'il n'obtient pas les crédits pour construire son fameux mur à la frontière avec le Mexique. Ça aussi, ça a pesé ce soir. On a également des résultats jugés décevants. Le titre de la chaîne de pharmacie Walgreens Boots abandonne 5%, Accenture moins 5% aussi. Et puis la déprime se poursuit pour les grandes valeurs, Apple moins 2,6%, Boeing et Nike moins 2%. Le pétrole rechute déjà, moins 4,7%, $45,88 pour le WTI. On est au plus bas depuis août 2017. Et puis l'euro est en forte hausse face au dollar, il gagne 0,8% à 1,1467.
Les annonces de la Réserve fédérale qui ont également refroidi l'ambiance à Paris.
Oui, ça fait retomber le CAC 40 sur ses niveaux de décembre 2016. Il perd 1,78%, 4692 points. Vous en parlez dans le journal, Airbus chute de 4,4% après les révélations du quotidien Le Monde. L'avionneur est donc sous le coup d'une procédure judiciaire aux États-Unis pour des soupçons de corruption. Il encourt une amende record de plusieurs milliards de dollars. La séance a été difficile aussi pour Crédit Agricole. La Commission européenne soupçonne 4 banques d'entente sur le marché secondaire des obligations libellées en dollars. Crédit Agricole est concerné. De lourdes amendes pourraient tomber. Le titre perd 4%. Et dans le même secteur, BNP Paribas et Société Générale lâchent plus de 3%.
Et les valeurs liées au pétrole, Claire, sont également sous pression.
Oui, la rechute du baril de brut pèse sur le secteur à Paris. Technip FMC, Total, CGG et Vallourec accusent une nouvelle fois le coup. Ce soir, très peu de valeurs résistent à Paris. Eramet, on retiendrait Eramet qui gagne 2,7%. Les marchés européens sont en forte baisse. Baisse de 0,8% pour Londres et de 1,4% pour Francfort. Moins 2% pour Madrid, moins 2,4% pour Bruxelles, Milan moins 1,9%. Et le CAC 40 perd 1,8%, 4692 points.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon très détaillé, Claire Lemaître de Boursier.com. Et à 22h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité écho avec vous Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le président de Citeo.
Bonsoir Jean Ornain.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Citeo. Citeo qui gère la majeure partie des obligations de recyclage des entreprises. Alors c'est à la mode en ce moment où on parle de référendum d'initiative citoyenne. Vous avez lancé des ateliers citoyens sur le recyclage. Alors deux ateliers je crois pour le moment, justement pour percevoir les attentes des citoyens en la matière. Quelles sont les grandes lignes de ces tout premiers ateliers citoyens ?
Effectivement, on a réuni à Marseille et à Strasbourg ces ateliers citoyens pour consulter les Français sur comment on améliore le geste de tri des emballages et des papiers, qui est vraiment essentiel. Et en fait, ce qui ressort, ce sont des grandes idées, parfois de bon sens et souvent très ambitieuses, qui sont de l'ordre de s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez simplifier ce geste et harmoniser en France ? Deuxièmement, est-ce que vous pourriez mieux valoriser le geste, est-ce qu'on pourrait toucher quelque chose ou avoir une gratification quand on ramène notre bouteille ou notre papier chez le distributeur ? Et puis, il y en a un troisième qui est l'axe pédagogique. Voilà.
Mais c'est vrai que simplifier et pédagogie, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être un petit peu les deux mêmes axes parce que l'une des difficultés, bien souvent, c'est qu'on se bagarre au sein des familles pour dire est-ce que c'est recyclable ou pas ? Est-ce que, par exemple, mon déchet qui a touché de l'alimentation, ça va quand même dans les plastiques ou pas ? C'est quand même assez compliqué.
Ça reste encore assez compliqué, mais on est en train de le simplifier. À savoir qu'aujourd'hui, tous les emballages et tous les papiers, à quelques exceptions, vont pouvoir entrer dans la poubelle de tri.
Y compris ceux qui ont touché des aliments.
Y compris. Ah oui, ça, d'une façon générale, on n'a pas besoin de faire la vaisselle avant de mettre sa boîte de conserve ou son carton de pizza dans la poubelle de tri. Et ce que nous faisons, sur les plastiques, qui est le dernier sujet, ce qu'on est en train de faire, c'est étendre la consigne de tri à tous les emballages plastiques de façon à ce que tous les Français puissent mettre d'ici 4 ans tous leurs emballages plastiques dans la poubelle de tri, ce qui suppose derrière de moderniser les centres de tri en France. Il y en a 200 et de trouver des débouchés pour tout cela.
Oui, parce que comme ce qui ressort de vos ateliers citoyens, la grande question, c'est vraiment comment mieux recycler. Et pour nous aider, beaucoup disent, on avait reçu notamment le patron de Paprec, un des grands noms du recyclage ici même à votre place, il nous avait dit mais il faut diversifier les points de collecte en zone urbaine, autrement dit comme on a aujourd'hui un petit peu partout des poubelles pour le verre, bah, il en faut pour les plastiques, il en faut pour le papier, il en faut pour tout ça. C'est pour quand ?
Alors c'est à Paris, c'est pour l'année prochaine, puisqu'on va installer ce qu'on appelle des trilibs à la ville de Paris pour effectivement densifier les points de collecte des emballages et des papiers dans l'espace public, qui est effectivement un sujet. On trie deux fois moins à la ville qu'à la campagne. Or, c'est le lieu où on consomme le plus.
Et une des raisons, je crois, et ça peut paraître idiot, mais c'est les jeunes urbains qui trient le moins bien, mais souvent pour des questions de place, parce qu'ils ont tellement de tout petits appartements, notamment à Paris ou dans les grands centres urbains, bah que voilà, on a une poubelle et on n'en a pas deux.
C'est exact. On a un peu plus de mal avec les 20-40 ans qui habitent souvent dans des immeubles, dans des appartements plus petits. C'est pour ça qu'il faut densifier les poubelles de tri dans l'espace public, y compris dans les gares et dans d'autres lieux qui sont des lieux privés qui reçoivent du public, de façon à améliorer ce geste. Aujourd'hui, on atteint un taux de recyclage des emballages qui est de 69%. On sera à 70% l'année prochaine et on a besoin de progresser. On a encore de la marge. On a très bien réussi le verre, le carton, les métaux. Il nous reste le plastique qui est le dernier sujet sur lequel on a de vrais progrès à faire, à la fois en éco-conception, c'est-à-dire en amont, en mise sur le marché, et puis évidemment sur le geste de tri.
Mais là, vous disiez, à Paris, on va avoir une diversification des points de collecte. Mais Paris, ce n'est pas la France, donc on va avoir ça un petit peu partout, dans les autres grandes villes urbaines, et puis bah, même à la campagne, parce qu'on a aussi besoin à la campagne d'avoir des zones de tri plus faciles.
Oui, la densification des points de collecte fait partie des projets. Après, il y a d'autres leviers qui ont été soulignés par les citoyens, qui sont comment est-ce que vous pouvez mieux valoriser mon geste ? Et là, il y a une chose qui s'appelle la tarification incitative, qui est le fait finalement pour chacun de payer sa poubelle ordinaire en fonction de sa consommation de déchets ordinaires.
C'est-à-dire plus d'avoir la même taxe poubelle pour tout le monde, mais on paye vraiment en fonction de ce qu'on...
Et donc, plus on trie, puisque la poubelle de tri, elle est payée par les entreprises. Ce sont les entreprises qui financent et pas le contribuable à poubelle de tri. Et donc, moins on met d'emballage dans sa poubelle ordinaire, plus on les met dans la poubelle de tri, plus finalement, on a un système qui est économique pour le foyer. Donc, ce sont des choses qui peuvent vraiment se développer. Aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui sont sous ce régime.
Et ça marche ?
Et ça fonctionne. La poubelle ordinaire peut baisser jusqu'à 50% et la poubelle de tri peut monter jusqu'à 25-30%.
Ah oui, donc véritablement, on voit ça. Et c'est quelque chose qui va se développer. Vous avez de plus en plus de communes qui sont intéressées par développer ce genre de système.
Oui, aujourd'hui, on est à 5 millions de Français. On sera d'ici 4-5 ans, on aura fait à peu près un tiers de la France à ce régime-là. Après, bien évidemment, ce sont les municipalités qui sont les décisionnaires dans ce domaine-là, parce que c'est de la fiscalité locale.
Et donc, Mais ça passe trop la cote en ce moment, la fiscalité.
Et la fiscalité, non, c'est difficile de faire passer des projets, il faut faire très attention à ça. Néanmoins, c'est un grand levier d'efficacité du geste de tri, que vous l'avez dit, qui a besoin vraiment de progresser en France.
Mais on disait qu'en zone urbaine, là, il faut diversifier les points de zone de collecte, parce qu'on disait que, par exemple, les jeunes urbains sont ceux qui trient le moins. Mais le grand problème aussi dans les villes, c'est que souvent on vit hors de chez soi. Vous citiez par exemple les gares, mais pas seulement, on va prendre l'exemple de Paris, il y a le canal Saint-Martin pour ceux qui connaissent, l'été ça devient le principal point de rassemblement pour les apéros, et là rien n'est prévu pour le tri, on ne va pas rentrer chez soi avec sa petite poubelle et tout trier derrière.
C'est pour ça en fait notre projet avec la ville de Paris d'installer des trilibs correspond exactement à ce mode de consommation qui est ce qu'on appelle la consommation nomade, c'est-à-dire je ne suis pas à la maison, je n'ai pas un bac de tri à la maison à disposition et il faut donc que j'ai une solution. Après il y a d'autres pays qui n'ont pas ce genre de système et qui rapportent leurs emballages chez eux, les Japonais le font parfaitement, donc ça dépend aussi de la culture.
Il faut nous aider un petit peu.
Après, ce qu'il faut éviter surtout, c'est de se défaire de ces emballages et de ces papiers dans le canal Saint-Martin, si vous parlez du canal, parce que là, on parle aussi de la pollution marine, qui est un enjeu majeur pour le monde, et tout ce qui est dans la mer, dans nos océans, était sur Terre avant. À 90%, et donc il faut sérieusement éviter ça.
Au début de cette interview, on disait qu'il faut plus de pédagogie. Est-ce que la pédagogie, ça passe aussi par l'école et ensuite par les entreprises, puisqu'on est peut-être nombreux à manger au restaurant d'entreprise, à la cantine d'entreprise. On prend par exemple l'exemple d'Europe 1, depuis qu'on a déménagé, on a une cantine hyper bien organisée pour le tri, et c'est vrai que si on le fait au travail, on peut se dire on va peut-être mieux le faire à la maison.
Bien sûr. Alors pour l'école, nous on a un programme, on touche à peu près 1,5 million d'enfants chaque année, donc 6-12 ans, plutôt maternelle et primaire, de façon effectivement à faire cette pédagogie et à montrer à quoi sert le geste de tri. Parce qu'en fait on a un sujet de confiance dans le geste de tri. même sur nos ateliers citoyens, on a emmené nos citoyens dans un centre de tri et ils ont découvert ce que ça devenait. Et en fait, ce qui renforce considérablement la confiance et donc la mobilisation autour du geste de tri. D'une façon générale, les entreprises ont une obligation d'organiser le tri de leurs déchets et donc de plus en plus s'y mettre. On va dire qu'aujourd'hui, ce sujet-là est remonté d'un cran dans les préoccupations des entreprises et des dirigeants d'entreprises, et c'est une très bonne chose.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Jean Ornain, qui est directeur général de Citeo. Citeo qui gère donc la majeure partie des obligations de recyclage des entreprises. Un grand merci. On se retrouve demain, 22h20.
À demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ?
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Des souliers sous le sapin, c'est le titre de l'édito de Florence Chédotal dans le journal La Montagne. À qui le tour, s'interroge-t-elle ? Cela semble le moment ou jamais de tenter sa chance. Elle a souri aux routiers, elle a souri aux policiers. Pourquoi ne sourirait-elle pas aux enseignants, aux pompiers, aux commerçants, aux agriculteurs, aux infirmiers qui ont, eux aussi, quelques heures sup à poser sur la table ? Et à tous ceux qui font tourner le pays sans sabrer le champagne chaque fin de mois. Au pied du sapin présidentiel, les souliers peuvent ainsi s'entasser à l'infini. Le déficit public n'a qu'à bien se tenir. Carlos Ghosn, bientôt libéré, écrit Laura Berny dans Les Échos, par un étonnant coup de théâtre judiciaire. Le patron de Renault, détenu depuis un mois à Tokyo, pourrait finalement ne pas passer Noël en prison. Fait rarissime, la nouvelle demande d'extension du parquet japonais a été non seulement rejetée par un juge, mais l'appel de cette décision a été débouté quelques heures plus tard. Un double camouflé pour l'accusation et un regain d'espoir pour les avocats du dirigeant qui, du coup, table sur sa libération sous caution, peut-être dès demain. Un retournement étonnant de situation qui, selon certains observateurs, pourrait laisser penser que le dossier est moins solide qu'il n'y paraît. À suivre. Comment les populistes récupèrent les religions ? En Europe, les mouvements et les gouvernements nationalistes ont fait de la défense de l'identité chrétienne leur fonds de commerce. C'est ce que nous dit l'opinion. Même s'ils n'en partagent pas forcément les valeurs. En début de semaine, d'ailleurs, le pape François s'en est pris à ses dirigeants nationalistes qui rendent les migrants responsables des problèmes de leur pays et attisent la méfiance au sein de la société en menant des politiques xénophobes et racistes. Un lâcheur à la une de Libération. Et ce lâcheur, c'est Donald Trump. Le président américain, estimant que la guerre contre l'État islamique est terminée, entend retirer ses troupes, abandonnant à leur sort ses alliés kurdes et livrant la région au chaos. Syrie, le retrait américain ouvre la voie à la Turquie, titre pour ça par le Figaro. Cette décision de Donald Trump de retirer ses troupes du nord du pays laisse le champ libre à Erdogan pour une nouvelle offensive contre les Kurdes. Dans le journal La Croix, Jean-Christophe Ploquin estime que cette décision de Donald Trump, c'est un signal fort à son opinion, las de l'envoi de troupes à l'étranger. Mais cette décision est désastreuse pour la lutte antiterroriste, nous dit le journaliste, et pour le peuple syrien. Plus de 5,5 millions de personnes sont réfugiées dans les pays voisins, sans compter les millions de déplacés internes. La solidarité internationale, notamment celle de la France, ne doit pas leur manquer, écrit Jean-Christophe Ploquin. Et c'est à lire donc dans La Croix demain matin. Voilà pour ce petit tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques.